Radio Capi. Oh, Capi. Le journal, présenté par Lévin Mbouinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Capi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Éléments de l'armée, de la police congolaise et leurs alliés Ouazalendou, victimes des traitements inhumains dans les centres de formation et de détention du M23, notamment dans le camp de Rumangabo. Révélation de l'ONG Badilika, basée en territoire de Rutshuru et aussi d'Amnesty International. D'autres détails dans ce journal. Et puis l'heure de l'accélération des travaux dans la province du Kasaï a peut-être sonné avec la visite d'inspection des chantiers par la première ministre. Judith Suminwa a en effet poursuivi sa série de visites à Tshikapa et ses environs. La tradition sera toujours respectée dans ce journal. Notre invité est le professeur ordinaire Muindo Muganda, recteur de l'Université de Goma. Il va nous édifier au sujet de 3 laboratoires du domaine technologique, numérique et de la santé inauguré récemment à l'Unigom, à suivre à la fin de ce journal. Encore une fois, bonjour. Avant d'aller plus loin, sachez d'abord que l'évolution politique et sécuritaire dans la région de l'Est de la RDC est un des points traités à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cette rencontre a eu lieu hier mardi à Kampala, en Ouganda, selon une publication sur le compte X du ministère congolais des Affaires étrangères et de la coopération. Madame la ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a pris part à cette réunion. La même source indique aussi que d'autres points comme l'examen du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre ainsi que la validation des documents préparatoires à la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de cet accord ont été aussi abordés. Je vous rappelle que cet accord signé en 2013 à Addis Abeba vise à consolider la paix, renforcer la coopération et stabiliser durablement la région des Grands Lacs. Place à présent à ces révélations de l'ONG Badilika, basée en territoire de Rutshuru, en Nord Kivu. Plusieurs éléments des FARDC de la police congolaise, leurs alliés Ouazalendou ainsi que de nombreux civils subissent des traitements inhumains dans les centres de formation et de détention. Des éléments du rebelle M23 dévoilent le dernier rapport de cette ONG au Nord Kivu. Ces violations sont relevées en l'occurrence dans le camp de Rumangabo. Il faut ajouter qu'une dénonciation similaire est aussi faite par Amnesty International dans son rapport publié hier mardi 27 mai sur le site Relief Web. En tout cas, ces organisations exigent entre autres la libération de ces personnes détenues arbitrairement selon elles. Détail avec Grace Hamzati.
Dans son rapport rendu public le 22 mai dernier, l'ONG Badilika, basée dans le territoire de Rutshuru, parle notamment des cas de châtiments corporels, parfois mortels, qui auraient été infligés à des centaines de personnes, civils et militaires, qui tentent de s'échapper ou de résister à la détention par les rebelles du M23. Depuis plus de 100 jours, un nombre important de ces personnes seraient portées disparues, dit l'ONG Badilika, qui en prend pour preuve des témoignages rassemblés sur ces exactions extrajudiciaires, notamment au sein même du centre de Rumangabo. Revenant sur des dénonciations similaires, Amnesty International, dans son rapport publié ce mardi 27 mai, accuse les mouvements du 23 mars M23 soutenus par le Rwanda des tueries, tortures et disparitions forcées de certains détenus. D'autres personnes, selon cette organisation internationale, sont prises en otage et soumises à des conditions inhumaines dans des lieux de détention à Goma et à Bukavu. Ces actes, selon Amnesty International, violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Amnesty International, tout comme l'ONG Badilika, demande au M23 de libérer immédiatement les civils maintenus en détention arbitraire, y compris ceux qui sont victimes de disparitions forcées et dont le sort doit être révélé. Elle demande en plus au M23 de traiter les détenus, civils ou militaires, avec humanité, leur permettant de pouvoir consulter des avocats et de communiquer avec leurs familles.
Nord Kivu toujours, la situation humanitaire cette fois était au cœur de la rencontre entre la directrice exécutive du programme alimentaire mondial et le gouverneur de province à Beni, chef lieu provisoire de cette province. Hemsley Macken, arrivé sur place en visite officielle depuis hier mardi, a insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer cette aide humanitaire dans une région où des milliers de personnes déplacées ont besoin d'assistance. La directrice exécutive du PAM s'exprime dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Well, this is not my first trip to Beni.
Je suis ici à Beni aujourd'hui et ce que je retiens, mes premières observations de cette visite, c'est de cette calme remarquable, tout ce sens de gratitude pour le fait que les PAM est en mesure de pouvoir travailler ici avec l'appui du gouvernorat pour pouvoir continuer à fournir de l'assistance alimentaire aux déplacés et aussi leur permettre d'avoir des moyens de subsistance pour eux. Le rôle du PAM, en fait, c'est de fournir l'accompagnement au gouvernorat pour mettre en pratique leurs priorités. Et d'après qu'on a compris, les priorités ici, c'est en fait de continuer à donner de l'assistance alimentaire aux personnes déplacées qui se trouvent ici à Beni. Et je suis convaincue du rôle que la sécurité alimentaire peut jouer dans la reprise de la vie socio-économique du pays. Et surtout quand les vivres sont là, alors même la paix aussi est là, parce que les gens peuvent en fait reprendre leur vie et continuer dans leurs activités de subsistance.
Autre révélation dans ce journal, c'est celle des acteurs de la société civile du groupement Gina en Ituri. Ils dénoncent les multiples tracasseries dont sont victimes les usagers de la route nationale numéro 27. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils accusent aussi les militaires des FARDC d'exiger de l'argent aux paysans et de procéder à des arrestations illégales des jeunes qui sont assimilés aux miliciens. Des allégations rejetées en bloc, bien sûr, par l'armée qui demande aux communautés locales de collaborer avec les FARDC en vue de dénicher les suspects. Le point avec Ezekiel Mousalia.
C'est depuis environ deux semaines, lors de l'attaque d'une position de l'armée loyaliste par les miliciens des Zaïre dans le village Tchourou, que la société civile de Gina dit constater plusieurs cas de dérapage des militaires contre des civils dans cette zone. Les conducteurs des taxis-motos qui fréquentent les tronçons Gina-Lopa en sont les plus victimes. Témoignage.
Tout le monde s'est déplacé et on ne veut même pas voir les jeunes gens. Alors, nous ne comprenons pas ça. Les taximens de motos sont tous confondus aux miliciens, aux rebelles des Serbes. Alors, ce que nous déplorons. Aujourd'hui, par exemple, si vous quittez Gina pour l'OPA, vous allez trouver à peu près quatre barrières devant vous.
L'armée rejette ces accusations. Son porte-parole soutient que les FARDC poursuivent des opérations militaires dans cette région où certains miliciens se cachent parmi les civils. Le lieutenant Jules Ngongo.
Ce sont certains miliciens qui dissimulent cela au sein de la population dans l'objectif de s'innover nos actions. Ces miliciens sont en train de tracasser la population.
Plusieurs mesures prises par les autorités militaires pour mettre fin aux tracasseries n'ont pas encore permis d'éradiquer cette pratique devenue courante sur les différents axes routiers en Ituri. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Sécurité encore, rien ne semble marcher dans le Grand Bandundu malgré les efforts des forces armées pour sécuriser cet espace à travers l'opération Ngemba. Tenez, des tensions internes persistent parmi les groupes rebelles Mobondo. Dernier cas en date, la mort d'un chef rebelle à la suite de violences entre deux factions Mobondo dimanche au village Vilakata, près du pylône 100 dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombé. Face à ces désordres, le commandement de l'opération Ngemba appelle à l'accélération du processus de désarmement de réinsertion de ces miliciens sortis de brousse. Capitaine Anthony Mwalouchai, porte-parole de l'opération Ngemba, est au micro d'Irène Mboma Luzolo.
Les violences internes ont été enregistrées au sein des factions rebelles Mobondo. Dans les villages de Vilakata, près de Kintsele, nous sommes dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombé. Les affrontements ont éclaté entre deux groupes Mobondo. L'un des groupes a procédé à l'arrestation de membres de notre groupe sous prétexte de tracasseries infligées à la population civile. Ces violences ont occasionné le pillage de plusieurs biens civils et entraîné la mort de M. Libaya, colonel autoproclamé du groupe rebelle dirigé par Dadi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont immédiatement renforcé leur présence à Vilakata et dans ses environs afin de protéger les populations civiles qui continuent de vivre dans un climat d'insécurité à la suite du retour des rebelles Mobondo dans plusieurs localités. Les commandements des opérations Ngemba appelle la Coordination nationale de la réserve armée de la défense RAD en cycle à accélérer les processus de désarmement et d'évacuation des combattants Mobondo déjà sortis des brousses.
Sachez aussi que le commandement des opérations Ngimba prévient qu'il n'exclut pas l'usage de la force si ces violences interfactions persistent. Les FRDC lancent également un appel à la population pour signaler tout acte criminel commis par le rebelle Mobondo. Et puis la criminalité urbaine se porte toujours bien à Kinshasa. Pour preuve, des cas de braquage s'amplifient dans la capitale. Exemple, celui intervenu lundi sur l'avenue Yumbu, quartier Upen. En effet, des bandits armés s'en sont pris à une maison de vente des motos et ont apporté toute la recette de la journée de vente de 6 motos et emmené avec eux 2 autres toutes neuves. Ces voleurs ont ainsi choisi d'abandonner les vieilles qui les ont conduit sous les lieux du forfait. Ce n'est pas tout. Un autre cas impliquant un cambiste est survenu la semaine dernière dans la même zone. Billy Van Lutumba nous fait le bilan de ces braquages.
Pas plus tard que la fin de la semaine dernière, c'est un cambiste qui a perdu tout son avoir sous menace d'armes à feu dans les environs du rond-point Masikita, toujours à Lupen. Une situation qui préoccupe du fait que cela se déroule en plein jour.
Les hommes cagoulés sont venus visiter la maison qui vend des motos là, juste à côté de chez nous là. Ils étaient armés, et c'est comme ça qu'ils ont donné quelques tirs de sommation et puis ils ont récupéré l'argent et puis 2 motos. Ils sont partis. Ça devient inquiétant parce que c'était pendant la journée.
S'exprimant sur sa vision quant à la sécurisation des personnes et de leurs biens pour la vie province de Kinshasa, le nouveau commandant de la police, Israël Kantou, compte sur la collaboration entre la population et les services de la police.
Vous et nous, nous allons élever des vies, c'est tout. N'hésitez pas à nous informer là où les gens qui dérangent votre quiétude se cachent et nous offrent un travail.
Signalons que ces cas de braquage deviennent en tout cas légion dans la ville de Kinshasa. Vendredi 23 mai, un jeune cambiste a été victime d'un violent braquage dans le quartier Ngilima, commune de Matete. Avril 2005, sur l'avenue des Libérations, tout près du centre pénitentiaire de Makala, un bureau d'échange et un shop dans la commune de Bumbu ont été également pris pour cible. Il s'agit de quelques cas parmi tant d'autres que connaissent les populations de la ville.
Nous apprenons encore qu'un groupe d'hommes armés ont fait irruption dans une chambre froide lundi après-midi au croisement des avenues Marina et Gambela dans la commune de Kasavubu. Après avoir maîtrisé les agents commis à la garde, ils ont dévalisé les caisses en quelques minutes alors qu'une caméra les prenait en image. Sur un autre registre, l'heure de l'accélération des travaux dans la province du Kasaï a peut-être sonné avec cette visite d'inspection des chantiers par la première ministre. Judith Suminwa a en effet poursuivi hier mardi sa série de visites à Chikapa et ses environs. Elle s'est rendue précisément à Loangé, à 120 km de la ville, ainsi qu'au village Bondo, où elle a constaté les dégâts causés par l'érosion sur la nationale numéro 1. Explication avec François Kadima.
Cette érosion représente une menace sérieuse pour les infrastructures routières et les communautés locales, a-t-elle déploré. La chef du gouvernement a ensuite inspecté les travaux du projet Chilegelou en plein ville de Chikapa. Puis direction le chantier du futur bâtiment de l'Assemblée provinciale du Kasaï, une infrastructure en cours de construction. Parmi les endroits également visités, Judith Suminwa a également été à l'hôpital général de référence de Chikapa. Elle a échangé avec le personnel médical et les patients. À l'issue de cette tournée de terrain, la première ministre a réaffirmé son engagement à accélérer le projet d'infrastructure et à renforcer les services sociaux essentiels au Kasaï. Saluant cette visite, la société civile locale voudrait des résultats concrets pour le développement de la province du Kasaï. Gilbert Ngoï est l'un de ses membres.
L'on voudrait que la première ministre nous apporte des solutions concrètes. Il y a l'épineux problème de la route Chikapa-Kandiaji que la première ministre visite et dise à la population du Kasaï, la société qui va contracté pour la réalisation de cet ouvrage.
Signalons que c'est depuis lundi que la première ministre est à Chikapa après l'étape de Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Autre actualité, c'est une structure régionale d'échange d'expérience électorale qui vient de voir le jour au Burundi. Elle est dénommée Réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale, ROGEAC en sigle lancée à Bujumbura. Cette plateforme réunit les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Selon Denis Kadima, président de la commission électorale de la RDC, qui séjournent dans la capitale burundaise pour cette fin. Ce lancement marque une étape importante dans la structuration de la coopération électorale en Afrique centrale, avec comme finalité la consolidation de la démocratie à travers des élections transparentes, inclusives et apaisées. On écoute Denis Kadima dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
On a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections. On fait d'une pierre deux coups. Nous allons adopter les statuts, adopter les règlements intérieurs, adopter le plan de travail et organiser des élections pour élire le nouveau comité qui va diriger cette institution. Et tout cela, ça sera fait ici à Bujumbura. Normalement, c'est 10 pays, mais jusque-là, nous avons 8 pays qui ont confirmé. Il y a toujours quelque chose à prendre de l'autre. Vous savez, on est tous des pays affectés par une certaine instabilité, mais à différents niveaux. Mais sur le plan de la tenue des élections, sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, cette mission elle-même que nous avons maintenant a une composante mission de solidarité. Certaines commissions électorales vont rester ici pour voir comment vous organisez vos élections, avoir des échanges avec la commission électorale nationale indépendante du Burundi et tirer des leçons. La plus-value, c'est l'échange d'expérience. Vous savez, si vous faites les choses vous-même, entre vous, vous risquez de répéter parfois les mêmes erreurs, alors que quand vous voyez comment les autres font, vous pouvez tirer des leçons et améliorer votre propre processus.
Actualité internationale.
Le premier congrès des peuples autochtones et des populations locales issues des trois grands bassins forestiers de la planète, Amazonie, Bornéo, Mekong et bassin du Congo, s'est ouvert hier mardi à Brazzaville. L'événement, qui s'achèvera le 30 mai, vise à aboutir à une déclaration commune en amont de la COP 30 prévue à Belém, au Brésil, en novembre 2025.
L'invité.
L'université de Goma Unigom a inauguré récemment trois laboratoires du domaine technologique, numérique et de la santé. Ceci porte à une dizaine des laboratoires mis en place depuis 4 ans dans cet établissement académique public de Goma. Le professeur ordinaire Muindo Muganda, recteur de l'Unigom, est notre invité pour en parler. Il affirme qu'il s'observe déjà des retombées sur le plan de la formation, de la recherche et du service rendu à la société. Muindo Muganda s'entretient ici avec Sifamagou.
Professeur Muindo Muganda, bonjour.
Bonjour, madame.
Votre institution vient récemment d'inaugurer 3 laboratoires, notamment celui d'innovation technologique, les laboratoires de géomatique et cartographie numérique, ainsi que les laboratoires d'anatomie pathologique. Parlez-nous-en, monsieur le recteur, afin que l'opinion puisse comprendre de quoi il s'agit.
Alors, l'université de Goma est en voie de modernisation. Elle a décidé de mettre fin aux enseignements théoriques et de mettre à la disposition de ses apprenants des instruments pratiques. Alors, les laboratoires que vous venez de citer, ce n'est qu'un échantillon de plusieurs laboratoires qui sont déjà installés faculté par faculté. Donc, en médecine, on a un laboratoire biomédical, on a un laboratoire de chimie analytique, un centre de simulation avec tous les départements, et maintenant celui dont vous avez parlé, le laboratoire d'anatomie pathologique. À sciences et technologies, nous avons le centre d'innovation technologique dont vous avez parlé, le laboratoire de géomatique, cartographie numérique. Et nous allons inaugurer demain un autre laboratoire de STEM Power pour l'électronique. Nous avons aussi un laboratoire de géologie. En économie, nous avons un incubateur de l'entrepreneuriat qu'on appelle Chemchem ya Biashara. En droit, nous avons une clinique juridique. En sciences de la communication, nous avons une radio-école. Et en agronomie, nous avons déjà un laboratoire de mycologie. Ça signifie que l'université est en train de se doter de tous les laboratoires nécessaires pour que l'apprentissage ne soit plus seulement théorique, mais qu'il soit pratique. Si vous lisez les instructions ministérielles, les étudiants de médecine paient $100 pour les laboratoires et les autres paient aussi les frais techniques qui s'élèvent en moyenne à $30 plus ou moins. C'est juste cet argent-là que nous utilisons en toute transparence et que ça nous permet d'avoir progressivement des laboratoires.
Depuis 4 ans que vous êtes là, vous mettez en place progressivement des laboratoires. Comment peut-on évaluer son impact, les retombées? Est-ce que ça se voit sur le plan de la formation, sur le plan de la recherche scientifique?
En tout cas, la formation s'est nettement améliorée. La recherche scientifique aussi. Quand il est vrai que nous commençons à produire des gens avec des masters ou avec des doctorats ici à l'UNIGOM, surtout dans la faculté de médecine et dans les santé publique. Et des améliorations, il y en a eu aussi au niveau de la société en général à Goma, où il y a des écoles secondaires qui viennent dans nos laboratoires pour l'apprentissage des enfants. À partir de certains laboratoires, nous servons directement la société. Ici, je fais allusion au laboratoire de mycologie parce que nous produisons immédiatement la semence pour la fabrication des champignons. Et à travers notre labo de chimie analytique, nous avons la possibilité de contrôler si la qualité de l'eau que nous buvons est bonne, si la qualité même de la bière que nous prenons dans les bars, si c'est assez bon. Donc, il y a un impact qui va vraiment dans trois sens. L'amélioration des enseignements et donc de l'apprentissage, l'amélioration de la recherche et puis l'amélioration du service à la société.
Est-ce qu'il y a des défis rencontrés jusqu'ici en cette matière?
Les défis que nous rencontrons, ce sont des défis d'amélioration et d'appropriation. Vous savez, de manière générale, lorsque vous gérez un établissement étatique, vous vous rendez compte que vous trouvez dans ces établissements des gens qui ont une mentalité selon laquelle ce qui appartient à l'État, c'est comme si ça n'appartenait à personne. Le grand défi que nous sommes en train d'affronter, c'est celui de l'appropriation, de telle manière que ceux qui vont venir après nous puissent trouver ici une communauté qui prend soin de tout ce qui a été mis en place et qui l'améliore aussi. Et le deuxième défi qu'on va connaître, évidemment, c'est celui de mettre nos laboratoires en concurrence avec les laboratoires de la sous-région. Parce que lorsque vous voyez l'université de Goma, donc il faudrait que les laboratoires que nous avons ici soient des laboratoires qui ressemblent aux laboratoires qu'on a dans les universités de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie. Et c'est l'effort que nous sommes en train de fournir de telle manière que nous soyons à la hauteur de la représentation de notre pays dans cette région de l'Afrique.
Professeur Muindo Muganda, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Au nom de Martin Sebujangwe, Jude Mister Bilanda et Polydor Basunga, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.